Mendan s'assit sur les talons et riva ses yeux bleus sur Vérine. Quoi qu'elle dise, un des deux hommes ne la quittait pas d'un pouce. Autour du front, Mendan portait un bandeau rouge, sur lequel figurait l'antique symbole des Aes Sedai. Comme les autres hommes qui arboraient ce bandeau, et comme les promises qui s'en paraient, il semblait attendre que Vérine commette une erreur. Désirer même qu'elle le fasse. Eh bien, ces gens n'étaient pas les premiers, et sûrement pas les plus dangereux. Depuis sa dernière véritable bévue, 71 ans s'étaient écoulés. Après avoir gratifié Layel d'un vague sourire, Vérine voulut rentrer la tête sous la tente. Mais quelque chose attira son regard et la pétrifia sur place. Si Mendan s'était brusquement décidée à l'égorger, elle ne s'en serait probablement pas aperçue. Non loin de la tente, une dizaine de femmes agenouillées en ligne faisaient rouler des meules sur une pierre plate, un genre de moulin qu'on trouvait fréquemment dans les fermes isolées. D'autres femmes apportaient de pleins paniers de céréales et repartaient avec la farine ainsi produite. Leurs cheveux tenus en arrière par un foulard, les meunières, 9 ou 10, c'était difficile à dire, portait un chemisier clair sur une jupe sombre. Bien plus petite que les autres, l'une d'entre elles, la seule dont la crinière ne cascadait pas jusqu'à ses reins, n'arborait pas l'ombre d'un collier ou d'un bracelet. Quand elle leva les yeux et croisa le regard de Vérine, le mécontentement, déjà inscrit sur son visage brûlé par le soleil, s'accentua. Un bref instant, avant qu'elle baisse de nouveau les yeux sur son ouvrage. L'estomac retourné, Vérine recula sous la tente. Irgain était une sœur verte. Du moins, elle avait appartenu à l'âge avert jusqu'à ce que Randaltor la calme. Être isolée de la source brouillait le lien qu'on avait avec son champion. Une fois calmée, on en était coupé, aussi sûrement que par la mort. Un des deux champions d'Irgain avait été foudroyé par le choc. L'autre était mort en tentant de tailler en pièces des milliers d'Aiel, et sans faire le moindre effort pour essayer de leur échapper. Selon toute probabilité, Irgain devait regretter de n'être pas morte aussi. Calmée. Calmée. Vérine plaqua les mains sur son ventre. Non, elle n'allait pas vomir. N'avait-elle pas vu pire qu'une femme calmée? Bien pire même.
« Il n'y a aucun espoir, pas vrai ?»
marmonna Turana, les yeux baissés sur sa coupe, au fond de laquelle elle semblait voir d'atroces choses, elle pleurait en silence.
« Aucun espoir. Quand on cherche, il y a toujours un chemin. »
répondit Vérine, en tapotant distraitement l'épaule de la sœur.
« Il faut chercher sans trêve. »
Les pensées tourbillonnaient dans la tête de Vérine. Et Turana était le cadet de ses soucis. Le sort d'Irgain lui donnait la nausée. La lumière lui en était témoin. Mais que fichait-elle à moudre du grain, habillée comme une Aiel? L'avait-on mise là pour que Vérine puisse la voir? Une question idiote. Même avec un Taveren aussi puissant qu'Altor dans les environs, il y avait une limite au nombre de coïncidences acceptables. Avait-elle fait une erreur de calcul? Au pire, ça ne pouvait pas être une énorme erreur. Parfois, les petites fautes se révélaient aussi mortelles que les grosses. Si Soriléa décidait de la briser, combien de temps résisterait-elle? Très peu, il fallait le craindre. En un sens, cette matriarche était aussi dure que tous les gens impitoyables que Vérine avait rencontrés. Et rien de ce qu'on pouvait lui dire ne l'arrêtait. Une angoisse à conserver pour plus tard. Dans sa situation, inutile d'en rajouter. S'agenouillant, Vérine tenta de réconforter Turana, mais sans grand enthousiasme. À voir son apathie, la sœur blanche ne fut guère convaincue par des propos qui, de toute façon, sonnaient creux. Personne ne pouvait changer le destin de Turana, excepté Turana elle-même. Et ça devait venir du plus profond de son être. Pour l'heure, elle pleurait simplement plus fort, mais toujours en silence. L'arrivée de deux matriarches et d'un duo de jeunes guerriers, trop grands pour se tenir debout sous la tente, ne fut pas loin d'un soulagement pour Vérine. Se levant, elle salua les deux aïels, mais aucune ne lui accorda une once d'attention. Rousse aux yeux verts, Daviana écrasait Vérine de toute sa taille. Aussi grande, Lossane, aux yeux gris, avait des cheveux noirs, mais qui donnaient des reflets roux au soleil. Faisant grise mine, les Aiel ne cachaient pas qu'elles se seraient volontiers passées de cette corvée. Pas assez puissantes dans le pouvoir pour contrôler individuellement Turana, elles s'étaient liées. Et leurs auras se confondaient alors même qu'elles étaient physiquement séparées. À croire qu'elles avaient passé leur vie à former des cercles. Vérine se força à sourire pour ne pas plisser le front. Où les matriarches avaient-elles appris ça? Une technique qu'elle ne possédait pas quelques jours plus tôt. Elle aurait parié son châle là-dessus. Tout se passa très vite et sans heurts. Quand les deux guerriers forcèrent Turana à se redresser, elle laissa tomber sa coupe d'argent. Vide, fort heureusement pour elle, et ne résista pas le moins du monde. Une saine réaction, puisque chacun de ces types aurait pu la porter sous son bras comme un vulgaire sac de grains. En revanche, elle ouvrit la bouche et produisit un long gémissement qui n'eut pas l'heure d'intéresser les aïeuls. Étant le focus du cercle, Daviana prit le bouclier en charge, et Vérine se coupa aussitôt de la source. Ici, quels que soient les serments qu'elle avait prêtés, personne ne lui faisait assez confiance pour la laisser s'unir au Saïdar sans une raison bien précise. Et les matriarches, si elle était restée connectée à la source, n'auraient certainement pas manqué de s'en apercevoir. Les guerriers traînèrent Tourana dehors, ses pieds nus glissant sur les tapis qui couvraient le sol. Et les deux aïels suivirent le mouvement. Voilà, c'était terminé. Tout ce qui était possible avec Tourana avait été fait. Avec un soupir, Vérine se laissa tomber sur un coussin de couleur vive orné de pompons. Près d'elle, sur un plateau en corde tressée, reposaient deux coupes d'argent mal assorties et un pichet en étain. Quand elle se fut servie, la sœur but avidement. Son travail l'épuisait et lui desséchait la gorge. Alors qu'on était loin du soir, elle avait le sentiment d'avoir porté un coffre très lourd sur plusieurs lieues et dans des collines. Après avoir reposé la coupe sur le plateau, la sœur tira de sa ceinture un petit carnet relié de cuir. Ici, on traînait toujours pour lui amener les personnes qu'elle demandait. Autant en profiter pour consulter ses notes et en ajouter quelques-unes. Sur les prisonnières, il n'y avait rien de plus à dire. Mais l'apparition de Katswane Melaidrine, 3 jours plus tôt, était un réel sujet d'inquiétude. Que cherchait-elle? Ses compagnes ne comptaient pas, mais elle, c'était une véritable légende. Et même la partie crédible de cette légende la classait parmi les gens hautement dangereux et imprévisibles. Vérine prit une plume, dans l'écritoire de voyage qui ne la quittait jamais, et saisit l'encrier qu'elle portait à la ceinture, dans un étui. Sans crier gare, une nouvelle matriarche entra sous la tente. Se levant d'un bond, Vérine, dans sa hâte, laissa tomber son carnet. Alors qu'Aeron était incapable de canaliser le pouvoir, elle la gratifia d'une révérence, sans rapport avec le salut distrait réservé à Daviana et à Lossein. Penchée au maximum, elle tenta de récupérer son carnet, mais la matriarche lui subtilisa sous le nez. Sans frémir, la sœur se redressa et regarda la grande aïeule tourner lentement les pages. Des yeux bleus glaciaux se rivèrent dans ceux de Vérine.
« De beaux dessins. Et des notes intéressantes sur les fleurs et les plantes. »
lâcha Aeron.
« Rien sur les questions qu'on t'a envoyé poser. »
Elle lança le carnet à Vérine, la façon aïeule de tendre un objet, sans doute.
« Merci, matriarche, »
dit la sœur, en remettant à sa place son précieux trésor. À tout hasard, elle se fendit d'une seconde révérence.
« J'ai l'habitude de consigner par écrit tout ce que je vois. »
Un jour, pour la postérité, elle devrait bien se résigner à coucher par écrit le code qu'elle utilisait pour ses textes personnels. Dans sa chambre, au-dessus de la bibliothèque de la tour, des armoires et des coffres étaient remplis de carnets apparemment anodins. Un jour, oui. Mais ce n'était pas pour tout de suite.
« Quant aux prisonnières, jusque-là, elles racontent toutes à peu près la même chose. » Le Karakarn devait être logé à la tour jusqu'à l'ultime bataille. Et s'il a été malmené, c'est parce qu'il a tenté de s'évader. Et vous savez sûrement déjà tout ça. N'ayez crainte, cependant. J'en apprendrai davantage.
La stricte vérité, même si ce n'était pas toute la vérité. Ayant vu trop de sœurs mourir, Vérine ne tenait pas à m'envoyer au tombeau sans avoir d'excellentes raisons pour ça. Mais comment décider quelles raisons étaient assez bonnes? L'enlèvement du jeune Altor par une délégation censée négocier avec lui avait mis les aïels en rage, donnant des envies de meurtre au matriarche. En revanche, les mauvais traitements subis par le jeune homme ne semblaient pas les perturber outre mesure. Dans un cliquetis de bracelets d'or et d'ivoire, Aeron ajusta son châle sombre, puis sonda le regard de Vérine, comme si elle essayait de lire ses pensées. Cette matriarche paraissait assez haut placée dans la mystérieuse et fluctuante hiérarchie de son ordre. À l'occasion, Vérine avait vu un sourire chaleureux s'afficher sur ce visage parcheminé. Mais jamais quand Aeron regardait une Aes Sedai.
« Nous n'aurions jamais soupçonné que ce serait vous qui échoueriez »,
avait-elle dit un jour à Vérine. Une déclaration énigmatique, mais dont la suite, en revanche, s'était révélée claire comme de l'eau de roche.
« Les Aes Sedai n'ont pas d'honneur. Donne-moi une raison de te soupçonner, l'équivalent d'un cheveu, et je te ligoterai de mes propres mains jusqu'à ce que tu ne puisses plus tenir debout. 2 cheveux, et je t'attacherai à un poteau, te laissant en pâture aux vautours et aux fourmis rouges. »
Vérine battit des paupières, tentant de prendre un air conciliant et docile. Il ne fallait surtout pas oublier la docilité et la soumission, son prolongement naturel. Ce n'était pas facile lorsqu'on n'avait pas peur. En son temps, elle avait soutenu le regard de femme et d'homme bien plus dur qu'Aeron et qui ne voyait pas la moindre objection, contrairement à la matriarche, à la battre sur le champ comme une chienne. Mais pour qu'on la charge de poser les fameuses questions, elle n'avait pas dû ménager ses efforts. Pourquoi les gaspiller maintenant? Si seulement ses aïeules avaient été un peu plus expressives. Soudain, Vérine s'avisa qu'Aïron et elle n'étaient plus seules sous la tente. Deux promises blondes venaient d'entrer, flanquant une femme en robe noire nettement plus petite qu'elle. En réalité, elle l'aidait à marcher. Légèrement en retrait, Vérine reconnut Tialine, une matriarche rousse à l'air maussade enveloppée de l'aura du Saïdar, puisqu'elle avait mission d'isoler la prisonnière de la source. Avisant les cheveux crasseux et emmêlés de la sœur, puis son visage maculé de poussière, Vérine ne la reconnut pas tout de suite. Des pommettes hautes, mais pas tant que ça, un nez très légèrement crochu et des yeux presque imperceptiblement inclinés. Beldaine. Beldaine Niram, une des novices à qui elle avait dispensé des cours par le passé.
« Si je puis me permettre, pourquoi m'avoir amené celle-là, alors que j'en avais demandé une autre ?»
Beldaine n'avait pas de champion. Étonnant pour une sœur verte ? Pas vraiment, en réalité. Nommée Aes Sedai depuis moins de 3 ans, elle se montrait très difficile sur le choix de son premier champion, comme toutes les sœurs de son ordre. Mais si les Aiel commençaient à choisir au hasard, la prochaine Aes Sedai risquait d'avoir 2 ou 3 champions. Avant la fin de la journée, Vérine pensait pouvoir s'occuper de 2 sœurs supplémentaires, à condition qu'aucune n'ait de protecteur. Et si elle ratait son coup, il semblait peu probable qu'on lui donne une seconde chance avec une de ses femmes.
« Cette nuit, Catherine Alruddin s'est évadée. »
lâcha Tialine.
« Vous l'avez laissée s'enfuir ?»
s'écria Vérine sans réfléchir. La fatigue n'était pas une excuse, mais les mots étaient sortis tout seuls de sa bouche. Et elle ne put pas s'empêcher de continuer sur cette voie.
« Comment peut-on être aussi stupide ? C'était une sœur rouge, puissante dans le pouvoir et loin d'être une poltronne. Le Karakhan est peut-être en danger. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt ?»«
Parce que l'évasion a été découverte ce matin, »
marmonna une des promises, le regard brillant de rage.
« Une matriarche et 2 corps d'araille ont été empoisonnés, et le Gaïshain qui leur a apporté à boire a été retrouvé la gorge tranchée. »
Aïron foudroya la promise du regard.
« Carawin, était-ce à toi que s'adressait la question ?»
Les deux promises se concentrèrent soudain sur la délicate mission d'empêcher Beldaine de s'écrouler. Alors qu'Aïron l'avait à peine regardée, Tialine baissa les yeux.
« Vérine, Matwin, l'inquiétude que tu éprouves pour Randaltor est tout à ton... honneur. Mais ne t'en fais pas, nous veillerons sur lui. En revanche, une apprentie ne parle pas sur ce ton à une matriarche, Vérine Aes Sedai. »
Ravalant un soupir, Vérine se fendit une 3e révérence. Dans un coin de sa tête, elle regretta de ne plus être aussi mince et souple que lors de son arrivée à la tour. Ses révérences et ses courbettes n'étaient plus de son âge.
« Pardonnez-moi, matriarche, »
dit-elle humblement. Catherine évadée. Tout était clair à présent. En tout cas pour elle, sinon pour les Aiel.
L'angoisse a obscurci mon jugement.
Dommage qu'elle n'ait aucun moyen d'assurer que Catherine périsse dans un accident.
À l'avenir, je ferai en sorte de rester à ma place.
Aïron ne réagit pas, comme si ses excuses la laissaient de marbre.
Matriarche, puis-je prendre en charge le boulier de la prisonnière ?
Sans regarder Tialine, Aïron acquiesça. Aussitôt, Vérine s'unit à la source et prit le relais du bouclier que la matriarche rousse ne maintenait plus. Vraiment, la hiérarchie des matriarches avait de quoi surprendre. Des femmes incapables de canaliser le pouvoir commandaient celles qui en avaient l'aptitude. Alors qu'elle était quasiment l'égale de Vérine, Tialine regardait Aïron avec presque autant de respect craintif que les deux promises. D'ailleurs, quand celles-ci se retirèrent, laissant Beldaine tituber sur ses jambes, elle leur emboîta vivement le pas. Aïron, elle, ne sortit pas tout de suite.
« Interdiction de parler de Catherine Alruddin au Karakhan, »
dit-elle.
« Il a assez de soucis comme ça. Inutile de l'ennuyer avec des détails. Je ne lui dirai rien. »
S'empressa de promettre Vérine. Des détails ? Une sœur rouge du calibre de Catherine n'était sûrement pas un détail. Cette affaire méritait peut-être une note. Il allait falloir y réfléchir.
« Tiens ta langue, Vérine Matwin. Si tu ne veux pas t'en servir pour hurler. »
Estimant qu'il n'y avait rien à répondre à ça, Vérine y alla d'une autre révérence. La soumission, toujours. Mais bon sang, ce qu'elle avait mal aux genoux. Dès qu'Aïron fut sorti, la sœur s'autorisa un soupir de soulagement. Un moment, elle avait craint que la matriarche décide de s'incruster. Obtenir la permission de rester seule avec les prisonnières avait été presque aussi difficile que convaincre Sorulea et Amis qu'il fallait les interroger, en confiant la séance à une personne familière de la Tour Blanche. Si les Aiel découvraient que leur décision avait été quelque peu influencée, encore un souci à garder pour plus tard. Décidément, la liste s'allongeait.
« Il y a assez d'eau pour que tu te débarbouilles, »
dit Vérine à Beldaine.
« Et si tu veux, je te guérirai. »
Toutes les prisonnières portaient au minimum quelques contusions.
Les aïels ne les frappaient pas, sauf quand elle renversait de l'eau ou renâclait devant une corvée. Les refus purement verbaux étaient accueillis par des éclats de rire méprisants, rien de plus. Mais ils les traitaient comme du bétail, et les badines laissaient bien entendu des traces. Accessoirement, la guérison rendait le « reste » plus facile. Oscillant sur ses jambes, crasseuses et ruisselantes de sueur, Beldaine trouva encore la force de se montrer hautaine.
« Plutôt me vider de mon sang qu'être guéri par toi. J'aurais dû m'attendre à te voir ramper devant ces naturels, de vulgaires sauvages. Mais de là à te voir leur révéler certains secrets de la tour. C'est une trahison, Férine. Un comportement de renégate. Bien sûr, si ça ne t'arrête pas, je suppose que tu ne reculeras plus devant rien. À part la technique requise pour se lier. Qu'avez-vous appris d'autre à ces femmes, toi et tes compagnes ?»
Sans daigner rétablir la vérité, Vérine eut un claquement de langue agacé. À force de lever la tête pour regarder des aïels, elle avait mal au cou. Pour ne rien arranger, Beldaine aussi était plus grande qu'elle, ses genoux la mettaient à la torture et en ce jour, bien trop de femmes qui auraient dû lui manifester du respect l'avaient regardée de haut. Qui aurait dû savoir mieux qu'une sœur qu'une Aes Sedai devait montrer plusieurs visages lorsqu'elle arpentait le monde ? On ne pouvait pas toujours intimider les gens, ni leur taper dessus à bras raccourcis. De plus, ne valait-il pas mieux se comporter comme une novice qu'être punie en tant que telle, surtout quand on n'avait rien d'autre à y gagner que de la souffrance et des humiliations ? Kiruna elle-même aurait reconnu le bien fondé de ce raisonnement.
« Assieds-toi avant de t'écrouler, »
dit Vérine à Beldaine. Elle prit elle-même place sur un coussin.
« Voyons, laisse-moi deviner ce que tu as fait aujourd'hui. À voir toute cette crasse, je parierais que tu as creusé un trou. À main nue, ou t'a-t-on autorisé à utiliser une cuillère ? Quand elles décideront que c'est terminé, les aïels te le feront reboucher, sais-tu ? Bien, un petit examen à présent. Tout ce qu'on voit de ta peau est sale. En revanche, ta robe est impeccable. Elle te force à creuser nu comme un ver, c'est ça ? Tu ne veux pas que je te guérisse, c'est sûr ? Les coups de soleil sont très douloureux. »
Vérine emplit une coupe d'eau et la fit léviter jusqu'à Beldaine. Un simple flux d'air, rien de bien compliqué.
« Tu dois avoir la gorge desséchée. »
La jeune sœur verte regarda un moment la coupe, puis ses jambes se dérobèrent et elle se laissa tomber sur un coussin.
« Ces femmes m'abreuvent souvent, »
dit-elle avec un rire amer. Vérine ne vit pas ce qu'il pouvait y avoir de drôle là-dedans.
« Autant que je veux, en fait, pourvu que j'avale tout. »
Beldaine marqua une pause, étudia un moment Vérine, puis lâcha agressivement.
« Cette robe te va très bien. La mienne, elles l'ont brûlée. Je les ai vues faire. Ces aïels m'ont tout pris, à part ma bague au serpent, parce qu'elles n'ont pas eu le courage, je suppose. Vérine, je sais ce qu'elles tentent de faire, mais ça ne fonctionnera pas avec moi, ni avec aucune d'entre nous. »
Beldaine était toujours sur ses gardes. Faisant se poser la coupe sur le tapis à motifs floraux près de la prisonnière, Vérine prit la sienne et but lentement avant de lancer.
« Que tentent-elles de faire, selon toi ?»
Cette fois, Beldaine eut un rire cassant.
« Elles veulent nous briser, et tu le sais très bien, afin que nous jurions allégeance à Altor, comme toi. Comment as-tu pu faire ça ? Prêter serment, et à un homme, en plus de tout, à cet homme ! Même si on peut comprendre que tu te sois révolté contre la chair d'Amirline et la Tour Blanche. »
Pour Beldaine, l'un équivalait à l'autre.
« Comment as-tu pu tomber si bas ?»
Un instant, Vérine se demanda s'il n'aurait pas été préférable que les femmes désormais prisonnières des aïels aient été, comme elle, entraînées dans le tourbillon généré par le Taveren Randaltor. Oui, comme de vulgaires grains de poussière. Dans son cas, les mots avaient jailli de sa gorge avant même qu'elle les ait formulés dans sa tête. Pas des paroles qu'elle n'aurait en aucun cas pu dire. L'influence des Taveren ne fonctionnait pas ainsi, mais plutôt des propos qu'elle aurait tenus une fois sur mille dans des circonstances semblables, ou plus probablement, une fois sur 10 000. Un serment prêté dans des conditions pareilles, devait-il être respecté ? Les sœurs en avaient longuement débattu, et elles continuaient à polémiquer sur la manière adéquate de tenir leurs paroles. Distraitement, Vérine toucha la petite broche rangée dans sa bourse. Une pierre translucide, taillée en forme de lys, mais avec beaucoup trop de pétales. Un bijou qu'elle ne portait pas, mais qui ne la quittait jamais, depuis près de 50 ans.
« Beldaine, tu es Datsang, dois l'avoir entendu dire. »
Vérine n'eut pas besoin de la confirmation de la sœur. Informée de leur sort, les mépriser faisait partie des lois Aiel, un peu comme prononcer une sentence. Au moins, ça, Vérine le savait.
« Tes vêtements et toutes tes possessions combustibles ont été brûlés, parce qu'aucun Aiel n'accepterait de posséder ce qui était naguère à un Datsang. Les autres objets ont été réduits en miettes ou brisés en 1000 morceaux, même tes éventuels bijoux, et enfouis au fond d'un trou servant de latrine. « Et mon cheval ?»
gémit Beldaine.
« Les aïels ne les tuent pas, mais j'ignore où est le tien. »
Devenue la monture d'un habitant de Kairien, sans doute. Ou peut-être celle d'un achaman. Mieux valait rester vague sur ce sujet. Si sa mémoire ne trompait pas Vérine, Beldaine, comme pas mal de jeunes femmes, nourrissait une véritable passion pour les chevaux.
« La bague est là pour te rappeler qui tu étais. » et t'humilier davantage. Même si tu les suppliais, je doute que les aïels te laisseraient prêter serment à Maître Altor. pour qu'elles y consentent. Il faudrait que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Je ne le ferai jamais !»
Une exclamation qui sonnait déjà creux. Les épaules voûtées, Beldane était ébranlée, mais pas encore assez. Vérine afficha son sourire le plus chaleureux. Jadis, un homme lui avait dit que son sourire lui rappelait sa défunte mère. Un sujet sur lequel il n'avait pas menti, espérait-elle. Un peu plus tard, il avait tenté de la poignarder, son fameux sourire étant la dernière chose qu'il avait vue avant de quitter ce monde.
« Je ne vois pas pourquoi tu t'abaisserais à ça. Hélas, je crains que ton avenir soit fait d'une infinie succession de corvées absurdes. Pour les Aiel, c'est affreusement humiliant. Bien sûr, si elles savent que tu ne vois pas les choses de la même façon... Misère, j'apparie que tu détestes creuser toute nue, même avec des promises comme gardienne. Mais imagine être sans vêtements dans... Eh bien, disons une tente remplie d'hommes. »
Beldane tressaillit. Vérine continua à enfoncer le clou. En la saoulant de paroles, une technique qu'elle maîtrisait désormais presque aussi bien que le pouvoir.
« Cela dit, il ne t'arriverait rien. Sauf en cas d'urgence, les Datsang n'ont pas le droit de faire quelque chose d'utile, et n'importe quel Aiel préférerait enlacer une charogne décomposée plutôt qu'une... Mais ce n'est quand même pas une éventualité plaisante, pas vrai? Quoi qu'il en soit, c'est ce qui t'attend. Je sais que tu résisteras jusqu'au bout, même si j'ignore à quoi tu seras confronté exactement. Les Aiel ne tenteront pas de t'arracher des informations, et elles ne te feront subir aucune des tortures qu'on inflige d'habitude aux prisonniers. Mais elles ne te laisseront pas partir avant qu'il ne reste en toi que de la honte. Et tant pis si elles doivent te garder jusqu'à ton dernier souffle. »
Beldane remuait les lèvres en silence, mais elle aurait tout aussi bien pu répéter à voix haute les derniers mots de Vérine. « Jusqu'à ton dernier souffle. » S'agitant sur son coussin, elle fit la grimace. Les coups de soleil, les contusions, ou simplement les courbatures dues à des efforts inhabituels.
« On viendra à notre secours, » dit-elle. « La chair d'Amirline ne nous abandonnera pas. Nous serons sauvés ou... Non, nous serons sauvés. Il n'y a pas de ou. »
Saisissant la coupe d'argent, Beldane la vida d'un trait, puis tendit le bras pour qu'on la lui remplisse. Vérine fit léviter le pichet, histoire que la prisonnière se serve d'elle-même.
« Tu allais dire où nous nous évaderons ?»
demanda Perrine. Beldane sursauta et renversa un peu d'eau.
« Allons, un peu de sérieux. Une évasion n'a aucune chance de réussir. Toi et les autres, vous êtes entourés par une armée d'Aiel. Et s'il le fallait, Altor pourrait lancer une centaine de ses Hachaman à vos trousses. »
Beldane frissonna à cette idée, et Vérine elle-même se sentit mal à l'aise. Encore une menace qu'il aurait fallu étouffer dans l'œuf, cette affaire.
« Beldane, je crois que tu vas devoir compter sur toi-même, et sur rien d'autre. Regarde la réalité en face. Tu es seul dans ce pétrin. Les Aiel ne te laissent pas parler aux autres, je le sais. »
Vérine soupira. Les yeux ronds, Beldane la regardait comme si elle avait été en face d'une vipère rouge.
« Ne te complique pas inutilement la vie. Au moins, laisse-moi te guérir. »
Vérine n'attendit pas le hochement de tête piteux de la prisonnière pour se lever, aller s'agenouiller près d'elle et lui poser les mains sur la tête. La sœur verte était aussi prête que possible. S'emplissant de plus de Saïdar, Vérine tissa des flux de guérison, et sa patiente poussa un petit cri puis se mit à trembler. La coupe lui échappa de la main, et en retombant, son bras renversa le pichet. Voilà, à présent, elle était parfaitement prête. Alors que Beldane tentait de revenir à la réalité, un moment de confusion normale après toute guérison, Vérine s'emplit encore plus de Saïdar, par l'intermédiaire de l'angréal en forme de lys rangé dans sa bourse. Un artefact pas très puissant, mais assez pour lui fournir le surplus de pouvoir dont elle avait besoin. Les flux qu'elle commença à tisser n'avaient aucun rapport avec la guérison. Si l'esprit prédominait, l'air, l'eau, le feu et la terre étaient également présents, cette dernière présentant quelques difficultés pour Vérine. Et le tissage, même quand il ne s'agissait que d'esprit, devint si complexe que le meilleur tisserand du monde aurait fini par en perdre le fil. Si une matriarche passait la tête sous la tente, il faudrait une incroyable malchance pour qu'elle ait les compétences permettant d'identifier le tissage en cours. L'Aiel serait certes intriguée, les conséquences risquant d'être douloureuses, mais elle ne découvrirait pas la vérité, et cela seul comptait.
« Que ?»
bredouilla Beldane. Les yeux mi-clos, elle n'aurait pas gardé la tête droite, si Vérine ne l'avait pas tenue.
« Que se passe-t-il ? Rien de menaçant pour toi, »
assura Vérine. À cause de ce qui arrivait, Beldane risquait de mourir dans l'année à venir, ou la décennie, mais le tissage en lui-même ne lui ferait pas de mal.
« Crois-moi, c'est inoffensif. Assez pour qu'on puisse le faire à un enfant. »
Bien entendu, tout dépendait de l'intention qu'on avait. Configurer les flux était une tâche délicate. Pourtant, parler semblait plutôt faciliter la concentration de Vérine. De plus, si les deux guides tendaient l'oreille, un trop long silence aurait pu éveiller leurs soupçons. Vérine jetait de fréquents coups d'œil au rabat de la tente. Elle était en quête de réponses qu'elle n'avait aucune intention de partager, et qu'aucune prisonnière ne lui donnerait volontairement, si elle les connaissait. Un des effets secondaires du tissage consistait à ouvrir l'esprit et à délier la langue du sujet, un peu comme certaines décoctions d'herbes, mais en agissant plus rapidement. Baissant le ton,
Vérine reprit son monologue.
Beldane, le jeune Altor semble penser qu'il a des soutiens au cœur même de la Tour Blanche. Des fidèles cachés, bien entendu.
Même en collant l'oreille contre la toile de tente, un espion aurait seulement pu dire que quelqu'un parlait, sans préciser ce qui se racontait.
Dis-moi ce que tu sais au sujet de ces soutiens.
Des soutiens ?
Répéta Beldane, dans un état second proche du coma. Mais pas tout à fait.
Pour lui, parmi les sœurs, c'est impossible. Sauf pour celles comme toi qui... Comment as-tu pu faire ça ? Pourquoi ne pas avoir résisté ?
Vérine eut un soupir de contrariété. Pas à cause de cette suggestion stupide. Résister à un Taveren. Non, c'était les certitudes d'Altor qui l'agaçaient. Comment pouvait-il être sûr à ce point ?
Tu n'as aucun soupçon, Beldane ? Avant de quitter Tarvalon, as-tu pas entendu de rumeurs ? Une ou plusieurs sœurs ont-elles suggéré d'aborder Altor sous un angle différent ? Dis-moi.
Rien de tout ça. Qui pourrait ? J'admire tant Kiruna.
Beldane semblait désorienté. Et des larmes creusaient des sillons dans la crasse de ses joues. Sans le soutien de Vérine, elle se serait écroulée. Sans cesser de jeter des coups d'œil au rabat, Vérine continua de mettre en place son tissage. Le moment était plus que délicat. Sori Léa pouvait décider de venir participer aux interrogatoires, en amenant avec elle une des sœurs du Palais du Soleil. Si une sœur découvrait les manigances de Vérine, le risque d'être calmé ne serait pas négligeable.
Donc, vous deviez le livrer à Elaïda bien propre sur lui et tout apprivoisé,
dit-elle d'un ton normal. Les murmures avaient trop duré. Pas question que ses guides aillent raconter au matriarche qu'il tenait des messes basses avec les prisonnières.
Je ne pouvais pas contester la décision de Galina. Elle nous dirigeait, sur ordre de la chair d'Amirline.
Beldane s'agita un peu. Sa voix était toujours pâteuse, mais on y entendait une certaine nervosité. Et elle battait frénétiquement des paupières.
Il fallait le forcer à obéir. C'était obligatoire. Mais le traiter si durement, le torturer ainsi, c'était une erreur.
Une erreur ? Un désastre plutôt. Une abominable catastrophe. Depuis, Altor considérait les Aes Sedai avec la même aménité qu'Aeron, sinon pire. Et si ce plan avait réussi, qu'est-ce que ça aurait donné ? Un pareil Taveren en résidence surveillée à la Tour Blanche. Une idée vraiment perturbante. Quelle qu'ait été l'issue, le mot « désastre » n'aurait sûrement plus suffi à la décrire. Pour éviter ça, le prix payé au puits de Doumaï était finalement acceptable. Vérine continua à poser des questions d'une voix assez forte pour être entendue et comprise hors de la tente. Des questions dont elle connaissait déjà les réponses. Pas celles qui étaient trop dangereuses pour être formulées. Sans accorder beaucoup d'attention à ce qu'elle disait et à ce que lui répliquait Beldane, elle continua à se concentrer sur son tissage. Au fil des ans, elle s'était passionnée pour bien des choses, toutes n'étant pas très bien vues par la tour. Parmi les irrégulières qui désiraient se faire former à la tour, on comptait de véritables naturelles, qui avaient vraiment commencé à s'initier toutes seules, et des filles qui venaient de toucher la source pour la première fois, parce que l'étincelle dont elles étaient porteuses dès la naissance s'était activée. Pour certaines sœurs, cette différence ne comptait pas. Il en allait autrement pour Vérine. Mais l'essentiel n'était pas là. Toutes ces femmes, ou presque, avaient, avant d'arriver à la tour, inventé un truc bien à elles. Et ces trucs, presque immanquablement, se rangeaient dans deux grandes catégories. Écouter les conversations des gens ou les forcer à agir contre leur volonté. La tour ne s'inquiétait guère de la première catégorie. Même une vraie naturelle, assez avancée dans son auto-formation, ne mettait pas longtemps à assimiler qu'il n'était pas question pour elle, tant qu'elle porterait une robe blanche de novice, de s'unir au Saïdar en l'absence d'une Aes Sedai ou d'une acceptée pour la surveiller. Une règle qui décourageait radicalement les aspirantes espionnes. L'autre truc, en revanche, ressemblait bien trop à la coercition, en principe strictement proscrite. Bien entendu, c'était seulement le moyen, pour une fille, de forcer son père à lui acheter une robe ou des colifichets qu'il ne jugeait pas convenables, ou une façon de contraindre sa mère à approuver ses fréquentations masculines. Bref, des petites choses dans ce genre. Pourtant, la tour traquait et éliminait impitoyablement cette aptitude. Beaucoup de jeunes filles et de femmes que Vérine avait interrogées n'étaient plus en mesure de modeler les tissages, et encore moins de les utiliser, la majorité ne se rappelant même plus comment on devait s'y prendre pour tisser cette configuration particulière. Collectant les bribes de souvenirs, des informations fragmentaires sur des tissages générés par des filles sans expérience pour obtenir des résultats mineurs, Vérine avait peu à peu reconstitué une aptitude strictement interdite par la tour depuis sa fondation. Au début, sa seule motivation était la curiosité, puis...
La curiosité,
songea-t-elle, amère.
Voilà un trait de caractère qui m'a plongé dans les ennuis plus souvent qu'à mon tour.
Puis tout ça s'était révélé très utile, en fin de compte.
« Je suppose qu'Elaïda comptait l'enfermer dans une des cellules ouvertes. »
dit Vérine, d'un ton presque nonchalant. Les cellules aux quatre cloisons de grille étaient réservées aux hommes capables de canaliser, aux Aes Sedai et aux acceptés en état d'arrestation, aux naturels qui avaient prétendu être des sœurs, et à tout prisonnier qui devait à la fois être privé de liberté et isolé de la source.
Un endroit inconfortable pour le dragon réincarné. Sans intimité. Beldane, crois-tu qu'il est vraiment le dragon réincarné ?
Cette fois, Vérine prit la peine d'écouter la réponse.
Oui.
Souffla la sœur verte en levant sur Vérine des yeux voilés par l'angoisse.
Oui, et il faut le protéger, et protéger le monde de lui.
Très intéressant. Toutes les sœurs disaient que le monde devait être protégé face à Altor. Celles qui pensaient qu'il fallait le protéger lui aussi sortaient de l'ordinaire. Et parmi elles, il y avait des femmes que Vérine ne se serait pas attendue à trouver là. Une fois achevé, le tissage de Vérine ressemblait à un extravagant entrelacs de flux enroulé autour de la tête de Beldane, et dont émergeaient très visiblement quatre flux d'esprit plus gros et plus brillants. En saisissant deux qui se faisaient face, la Aes Sedai tira, faisant se resserrer le construct, qui parut ainsi avoir un semblant d'ordre, ou en tout cas, qui fit moins penser à un fouillis absolu. Beldane écarquilla soudain les yeux, le regard perdu dans le lointain. D'une voix basse mais ferme, Vérine énonça ses instructions, des suggestions plutôt, même si elles se présentaient comme des ordres. Car Beldane devrait trouver au tréfonds d'elle-même des raisons d'obéir. Si elle ne le faisait pas, tous les efforts de Vérine auraient été vains. Quand elle eut dit tout ce qui convenait, elle tira sur les deux autres flux d'esprit, fermant davantage le tissage, qui devint beaucoup plus petit. Du coup, il parut parfaitement ordonné, comme s'il s'agissait d'une création très précise, complète, et beaucoup plus complexe que les entrelacs les plus raffinés d'un tisserand. Un construct terminé par une intervention identique à celle qui avait amorcé sa contraction. Une sorte d'effondrement sur lui-même, en fait. Mais cette fois, le tissage continua à se resserrer autour du crâne de Beldane. Puis il s'y fondit et finit par disparaître. Les yeux révulsés, la sœur verte fut prise de convulsions et de spasmes. Vérine essaya de l'immobiliser sans lui faire de mal, mais sa tête continua à osciller de droite à gauche et ses pieds nus martelèrent le tapis. Encore un moment, et il faudrait une sonde de pouvoir très profonde pour s'apercevoir qu'il y avait une intervention. Vérine s'en était assurée elle-même, et en matière de sonde, elle était l'autorité ultime. Elle le disait sans vergogne, parce que c'était la stricte vérité. Bien entendu, son construct n'était pas vraiment la coercition telle que la décrivaient les anciens textes. Le tissage était atrocement lent, puisqu'il fallait le réaliser flux après flux, et il fallait que le sujet y collabore jusqu'à un certain point. Tout était bien plus aisé quand il était émotionnellement vulnérable. Mais la confiance restait une donnée essentielle. Même prendre une personne par surprise ne suffisait pas si elle était méfiante. Du coup, cette méthode perdait pratiquement toute efficacité avec les hommes. En compagnie d'une Aes Sedai, très peu de mâles baissaient leur garde. Même s'il n'y avait pas eu cette méfiance innée, les hommes, malheureusement, faisaient de très mauvaises victimes de ce tissage. Une bizarrerie que Vérine ne parvenait pas à s'expliquer. Le plus souvent, les jeunes filles pas encore formées s'en servaient sur leur père ou d'autres hommes. N'importe quelle forte personnalité pouvait se mettre soudain à douter de ses propres actes, voire à omettre de les accomplir, ce qui générait des problèmes très différents. Mais toutes choses égales par ailleurs, les hommes étaient davantage sujets à cette réaction. Chez eux, elle se produisait bien plus souvent, à cause de leur méfiance peut-être. En une occasion, un mâle s'était même souvenu du tissage dont elle l'avait enveloppé. Pour un peu, il se serait même rappelé les instructions qu'elle lui avait données. Inutile de dire que ça lui avait valu un tombereau d'ennui. Un risque qu'elle entendait bien ne plus jamais prendre. Les convulsions de Beldane se calmèrent, puis cessèrent.
« Qu'est-il arrivé ? »
demanda-t-elle faiblement, en portant à sa tête une main noire de crasse.
« Me suis-je évanoui ?»
L'amnésie était un des nombreux avantages de ce tissage, et ça n'avait rien d'étonnant. Après tout, mieux valait que papa oublie qu'il avait été poussé à acheter une robe hors de prix.
« C'est la chaleur !»
dit Vérine, en aidant sa collègue à se redresser.
« Aujourd'hui, je me suis également senti mal une ou deux fois. »
À cause de la fatigue, pas de la chaleur, mais bon. Manipuler tant de Saïdar était épuisant, alors, quand on en était à la cinquième fois de la journée, dès qu'on cessait de l'utiliser,
L'angréal n'avait plus aucune action protectrice contre les effets secondaires. En cet instant même, Vérine avait les jambes en coton.
« Bon, je crois que ça suffit. Si tu t'évanouis, ces femmes te trouveront peut-être une corvée à exécuter à l'ombre. »
Cette perspective ne sembla pas réconforter Beldane. Tout en se massant les reins, Vérine alla jeter un coup d'œil dehors. Comme la fois précédente, Coram et Mendan abandonnèrent aussitôt leur jeu de ficelle. Rien n'indiquait qu'ils avaient tendu l'oreille. Mais Vérine n'aurait pas parié sa vie là-dessus. Après avoir informé les deux aïeuls qu'elle en avait terminé avec Beldane, elle hésita un peu, puis ajouta qu'il lui faudrait un second pichet d'eau, parce que la prisonnière avait renversé le premier. Les deux guides se rembrunirent. Cette information serait transmise à la matriarche qui viendrait prendre Beldane en charge. Du coup, la sœur verte, dûment punie, aurait une bonne raison de plus de prendre la bonne décision le moment venu. Bien que le soleil fût encore loin de son couchant, une douleur lancinante dans le dos de Vérine lui indiqua qu'elle en avait assez pour la journée. Elle aurait pu s'occuper encore d'une sœur. Mais elle aurait payé cet excès en se réveillant en ayant mal partout le lendemain. Du coin de l'œil, elle aperçut Irgaine, qui travaillait maintenant avec les porteuses de paniers de grains. Quel cours aurait pris sa vie si elle n'avait pas été si curieuse? Pour commencer, elle aurait épousé Eadwin et serait restée à Farmading, au lieu d'aller à la Tour Blanche. Aujourd'hui, elle serait morte depuis longtemps, tout comme les enfants et les petits-enfants qu'elle n'avait jamais eus. Exhalant un soupir, elle regarda de nouveau Coram.
« Quand Mendan sera revenu, veux-tu bien aller dire à Colinda que je désire voir Irgaine Fatamed ?»
Les courbatures, demain matin, seraient un châtiment mineur, comparé à ce que Beldane allait endurer pour avoir renversé de l'eau. Mais ce n'était pas ça qui motivait Vérine, et pas davantage la curiosité. Elle avait une mission. D'une manière ou d'une autre, il lui faudrait garder le jeune Rand en vie, jusqu'à ce que l'heure de mourir ait sonné pour lui. La pièce aurait très bien pu être dans un grand palais, n'était qu'elle n'avait ni porte ni fenêtre. Dans la cheminée de marbre jaune, le feu ne produisait pas de chaleur et ses flammes ne consumaient pas les bûches. L'homme, assis à une table, aux pieds dorés reposant sur un tapis de soie tissé de fils d'or et d'argent, accordait fort peu d'importance aux munificences de cet âge. Il en fallait pour impressionner les gens, voilà tout. Cela dit, en règle générale, sa seule personne suffisait à remettre à leur place les orgueilleux et les arrogants. Il se faisait appeler Moridine, et à coup sûr, personne dans l'histoire n'avait jamais eu autant que lui le droit de se baptiser « mort ». De temps en temps, il caressait distraitement l'un des deux pièges-manteaux accrochés à son cou par une banale cordelette de soie. À son contact, le cristal rouge sang du cours s'ouvra, se mettait à pulser comme un cœur, des ondulations se diffusant jusque dans ses profondeurs. Mais l'attention de Moridine était rivée sur le plateau de jeu posé devant lui sur la table. Un carré de 13 cases sur 13, 33 pièces rouges et autant de vertes. Une reconstitution de la forme première d'un jeu universellement connu. Le pêcheur, la pièce la plus importante, noire et blanc comme la surface de jeu, attendait toujours sur sa case de départ, au centre du plateau. De très loin, antérieur à la guerre du pouvoir, le Chara était décidément un jeu compliqué. Chara, Cheran, puis Nori, le jeu s'appelait aujourd'hui Pierre, tout simplement. Chaque variante avait ses fanatiques qui la déclaraient supérieure aux autres, le reflet de toutes les subtilités de la vie. Depuis toujours, Moridine était un tenant du Chara. Dans le monde, 9 personnes seulement connaissaient encore les règles. Lui avait été un grand maître en son temps. À côté, le Cheran ou le Nori était bon pour les enfants. Au Chara, le premier objectif était de capturer le pêcheur. Ensuite, la partie pouvait commencer. Un jeune serviteur tout de blanc vêtu approcha. D'une beauté presque incroyable, il s'inclina, en tendant vers Moridine un plateau lesté d'un gobelet de cristal. Le garçon souriait, mais ses yeux noirs restaient vides, pas morts, plutôt sans vie. Plus d'un homme se serait senti mal à l'aise sous ce regard. Impassible, Moridine prit le gobelet et congédia le domestique. Les vignerons de cet âge produisaient quelques très bons vins. Pourtant, Moridine ne but pas. Le pêcheur le fascinait. Plusieurs pièces avaient différentes façons de se déplacer, mais seul le pêcheur en changeait selon la case où il se trouvait. Sur une blanche, il n'était pas bien fort en attaque, mais se révélait un défenseur agile, doté d'un grand rayon d'action. Sur une noire, sa puissance offensive était dévastatrice. En revanche, il se révélait lent et vulnérable dès qu'on l'attaquait.
Quand des maîtres s'affrontaient, le pêcheur changeait plusieurs fois de main au cours de la partie. Si la bande rouge et vert qui entourait le plateau, l'embute, en quelque sorte, pouvait être menacée par toutes les pièces, seul le pêcheur avait le droit d'y pénétrer. Cela dit, il n'y était pas plus en sécurité qu'ailleurs. Le pêcheur n'était à l'abri nulle part. Quand un joueur détenait le pêcheur, il essayait de le conduire sur une case de la couleur de son camp, à l'arrière du terrain défendu par l'adversaire. C'était la façon la plus simple de gagner, mais pas la seule. Et quand le pêcheur était entre les mains de l'autre joueur, la stratégie consistait à forcer ce dernier à le placer sur une case de la couleur opposée à son camp, à condition qu'elle soit contiguë de l'embute, cependant. Parfois, détenir le pêcheur n'était pas vraiment un avantage. Il y avait une troisième façon de gagner au chara, si on était assez vif pour la saisir avant de s'être fait piéger. Quand on s'engageait sur cette voie, la partie dégénérait immanquablement en une boucherie, la victoire étant acquise au prix de la destruction totale de l'adversaire. Moridine avait essayé une fois, dans une situation désespérée, un échec cuisant et douloureux. La colère éclata soudain, dans sa tête, et des points noirs dansèrent devant ses yeux quand il se connecta au vrai pouvoir. Une extase proche de la souffrance s'emparant de lui, il referma une main sur les deux pièges mentaux. En même temps, le vrai pouvoir enveloppa le pêcheur, le soulevant dans les airs, et faillit l'écrabouiller, puis faire disparaître à jamais ses débris. Dans l'autre main de Moridine, le gobelet explosa, et il faillit faire subir le même sort au cours Souvra. Devant ses yeux, les Saas tourbillonnaient, mais il n'obstruait pas son champ de vision. Le pêcheur était toujours représenté sous la forme d'un homme aux yeux recouverts d'un bandage qui plaqua une main sur son flanc, du sang dégoulinant entre ses doigts. Pourquoi ? Comme pour la signification du nom de la pièce, la réponse à cette question était perdue dans la nuit des temps. L'idée que des connaissances précieuses, la clé de secret qu'il aurait dû pouvoir percer à jour, soient à jamais perdues à chaque rotation de la roue, troublait Moridine et le mettait parfois en rage. Car il avait le droit, oui, le droit, d'accéder à ses trésors. Lentement, le vrai pouvoir reposa le pêcheur sur le plateau de jeu. En même temps, les doigts de Moridine s'ouvrirent autour des cours Souvra. Inutile de détruire qui que ce soit, pour l'instant en tout cas. En un clin d'œil, la colère fut remplacée par un calme glacial. Indifférent au vin qui coulait entre ses doigts et au sang qui sourdait de sa paume blessée, Moridine songea que le pêcheur était peut-être un lointain reflet de Randall Thor, l'ombre d'une ombre en quelque sorte. S'avisant qu'il riait, il ne fit aucun effort pour cesser. Sur le plateau, le pêcheur attendait toujours. Mais dans la partie à l'échelle du monde, Altor était déjà son jouet. Et très bientôt, impossible de perdre une partie quand on jouait les deux camps, pas vrai ? Son hilarité augmentant, Moridine finit par en avoir les larmes aux yeux. Mais il ne s'en aperçut pas.